Voilà, donc on aborde bientôt le Daf Lamed Amoud Alef. Je rappelle, Bar Peda intervient en bas de Daf Rafret Amoud Bet pour dire que la Mishnah à propos de Netio, des jeunes plants d'arbres, que quelqu'un a dit je les rends Hekdesh, je les rends Korban, veut dire Hekdesh, Kdushat Damim, Atchei Katsetsu. Alors la Mishnah nous dit Elaim Pidyon, ils n'ont pas de possibilité d'être rachetés. Bar Peda y traduit que aussitôt racheté, aussitôt redevenu Hekdesh. Pourquoi? Parce que si tu as mis une limite jusqu'à Chei Katsetsu, jusqu'à telle échéance, je les veux, Hekdesh, ça veut dire coûte que coûte, ils doivent le demeurer. Si bien que j'entends dire, je l'aurais racheté quand bien même, eh bien, il redeviendrait Hekdesh. C'est un Hekdesh renouvelable que je viens d'initier par cette parole. C'est comme ça qu'on entend, et c'est comme ça que la Mishnah, elle fixe forcément le din, puisque c'est ça que tu as entendu. Tu entendais dire, passer ce délai, alors. Oui, ça reste kadosh, puisque c'est devenu kadosh avant, ça reste kadosh. Une kedusha ne s'en va pas toute seule. Même si tu as fixé une limite, tu ne peux pas limiter dans le temps une kedusha. C'est pourquoi il faudra le racheter. Comme ça, c'était la shita de Bar Peda. Tandis que Oula disait, passez le délai, kivan shenik tzetsu shuven podan. Pas besoin de les racheter, ils n'ont plus de kedusha. T'as mis une limite à la kedusha. Or, on peut limiter une kedusha d'amim sans problème. Qu'est-ce que pense Oula sur avant chez Katsetsu, avant l'échéance, est-ce que c'est Pedahan, Chosrot, Vekotchot ou pas? Là, il y a Marloket. Dans le Ran, c'est rapporté, le Rajba, il pense que sur ça, Oula est d'accord avec Bar Peda. Et d'après un certain Chacham Agadol, Rabbi Moshe Kartavi, non, Oula n'est pas d'accord. On avait vu ces deux Shitot, comment comprendre le propos de Oula. Maintenant, la Gemara repart sur ce qu'a dit Bar Peda. On est ici en bas de Khaftet Amoud Bet, à trois lignes du bas de la page. Yativ Ravi Avin, Veyav Yitzhak Barav Yosef, Kamede Ravi Yirmiya. Donc Ravi Avin et Ravi Yitzhak Barav Yosef étaient assis tous deux devant un maître, ou leur maître, Ravi Yirmiya. Vekamena même Ravi Yirmiya. Et Ravi Yirmiya était en train de comme somnoler. Et eux, ils avaient un échange. Yatve vekamre, ils étaient assis en train de dire les bar peda de amar pedan chosrot vekotchot. Selon Bar Peda qui a dit que voilà comment la Mishnah voulait dire. Quand la Mishnah dit en impidion, ça signifie qu'il n'y a pas moyen de le racheter jusqu'à l'échéance de Chei Katsetsu. Parce que son intention c'était jusqu'à cette échéance, je le veux Ekdesh. C'est comme s'il a fait une désignation renouvelable. Je le désigne Ekdesh. Renouvelable. Donc aussitôt racheté, aussitôt redevenu Hekdesh. Petite parenthèse, cette présentation, les Bar Peda, Mashmak, c'est propre à Bar Peda et non à Oula. Le Rani dit que c'est un peu une résonance en faveur du deuxième commentaire que je viens de rappeler, non celui du Rashba. Ok, je referme la parenthèse. Donc ils ont demandé, selon Bar Peda, qui dit que Chosrot Vekotchot, alors on pourrait résoudre le doute de Rav Hoshaya qui avait demandé Hanoten shte poutot laisha ve'amarla be'achat itkat shili ayom be'achat itkat shili le'achar she'agarecher. Celui qui donne à une femme deux pièces d'une prouta et lui dit avec une tu deviens mes kudeshet aujourd'hui kidushin immédiat ou be'achat et avec la deuxième tu deviens Mekoudeshet Lachar Shagarecher, à retardement. À quelle échéance? Après que je t'aurai divorcé du premier mariage. Aranami Davu Kidushé. Alors ici aussi, ça devrait être des Kidushin. Quelle est la question? Alors la question, elle commence parce que il y a un din que on ne peut pas être Makedish d'avoir Shelo Balolam. Et donc, on ne peut pas être Mekadesh une femme si maintenant elle est déjà mariée. Et même si elle est mariée à moi-même, je ne peux pas lui redonner Kiddushin. Il n'y a pas de Kiddushin qui sont tofsin sur des Kiddushin préalables. C'est qu'une femme Pnouya qui est sujet à Kiddushin. Je rappelle aussi ce qu'on a déjà vu, que Kiddushin égale Kedusha. C'est un concept de Kedusha que la femme devient Asura à Kule Alma Kehegdesh, c'est un moussak de Kedusha. C'est pas juste un dénominateur commun sans rapport. Ça a un rapport avec la notion de Kedusha qu'on trouve dans Hegdesh. Donc on peut pas faire de Kiddushin sur un autre. Il faut qu'elle soit Pnouya. Or ici, elle est. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Il va lui donner un premier Kiddushin pour que tout de suite elle soit Mekoudeshet, puis un deuxième pour que elle le devienne à nouveau une fois divorcée. Mais il ne lui a pas donné deux pièces en deux temps. Il a donné les deux pièces en une fois. Il faut deux pièces pour faire deux Kiddushin, ça va de soi. C'est pour ça qu'on parle de deux Proutot. Et les deux Proutot, il les donne simultanément, mais avant de donner les pièces, comme ça j'ai compris. Il dit, voilà, avec une pièce, tu vas devenir Mekoudeshet immédiatement, et avec l'autre, Kiddushin à retardement pour après le divorce. Est-ce que ça marche? Quelle peut être la Sheila? Est-ce que ça marche parce que là, il y a nettement un avantage? C'est qu'au moment où il lui donne la pièce, il n'y a pas de Kiddushin préalable qui a déjà pris effet. C'est les deux pièces en même temps. La parole ne fait rien encore. C'est vrai qu'il a parlé des Kiddushin 1 une seconde avant et des Kiddushin 2 une seconde après. Mais tant qu'il n'a pas donné l'argent, rien n'a pris. Quand il va donner les deux pièces, en même temps, il y a les deux Kiddushin qui arrivent. L'un à Chalout immédiate et l'autre à Chalout différé. Et donc, si bien que les Kiddushin ultérieurs se rapportent à une femme qui est Pnouya actuellement. Est-ce que ça peut marcher à ce titre? Ou bien je dis non, ça ne marche pas parce que ce qu'il cherche à faire, c'est une kedusha shnia, comme ça dit le Ran. Or, s'il voulait faire les deux kedushot là, maintenant, simultanément, c'est pas beyado. C'est vrai que c'est beyado de faire des kiddushin à retardement pour dans 3 mois. Suppose qu'il la marie pour 2 mois et demi, il la divorce après. Donc pour dans 3 mois, c'est possible. Faire des kiddushin maintenant à retardement, ça existe. Mais comme il fait aussi des kiddushin maintenant, et faire 2 kiddushin maintenant, avec Khalout immédiate, ça marche pas. Il n'est pas à même de réaliser un deuxième kiddushin en même temps qu'un premier, là, dans l'immédiat. Donc ce deuxième qu'il veut faire pour plus tard, il n'est pas en mesure de le faire maintenant. C'est-à-dire souvent, ce qu'on réfléchit, est-ce qu'il est à même de faire pour plus tard? Ça dépend de ce qu'il peut faire maintenant. L'avantage dans ce cas particulier de Rav Hoshaya, c'est qu'elle est Pnouya aujourd'hui. Comme je dis dans l'introduction, c'est le Roche qui mentionne ça. Si elle n'était pas Pnouya, oublie. Tu ne peux pas donner des Kiddushin à une femme qui est déjà échatiche, même si c'est ton échatiche. Non, c'est parce qu'elle est Pnouya que commence la question. Est-ce que je peux lui donner des Kiddushin à retardement pour plus tard? Pour après le divorce. Alors tu dis c'est Beyado les Kadesha maintenant? Alors c'est Beyado les Kadesha pour plus tard? Ou tu dis, mais attention, ce qu'il cherche à faire c'est un double Kiddushin. Or s'il voulait faire double Kiddushin là dans l'immédiat, il peut pas. À Khalout immédiat, il peut pas. Alors peut-être que même avec Khalout différé, il peut pas. C'est la question et le doute de Rav Hoshaya qui n'a pas été tranché. Et du coup, les Talmidim qui sont présents devant, en présence de Rabbi Yirmiyah, ils échangent et ils se demandent pourquoi de notre enseignement de Bar Peda, on ne pourrait pas en tirer une leçon. De la même manière que dans notre Mishnah, s'agissant d'une Kedusha, l'objet, je le veux, Hegdesh. Hegdesh qui se renouvelle, eh bien il se renouvelle. Aussitôt racheté, aussitôt il devient Hegdesh. Ben, la même chose dans le Kiddushin pour une femme. Pourquoi ce serait différent? C'est la question qui a été soulevée. À Hanam, ici aussi, il y a vos Kiddushin. Ça devrait être des Kiddushin. Voilà comment ils ont voulu conclure. Etar, Beur, Rabbi Yirmiyah. C'est alors que Rabbi Yirmiyah s'est éveillé. Amar Leu, il leur dit, Maïka Medamitoun, qu'est-ce que vous comparez, Pda'an, ou l'Ibda'ou Machirim, quand c'est lui-même qui est podé, au cas que c'est Achirim qui sont podés. Voilà qu'il y a une différence de taille. Achi amar Rabbi Yochanan. Voici ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Pedan hu chozrot vekodshot. Pedaou macherim en chozrot vekdoshot. C'est seulement si lui-même les a rachetés que ça redevient Ekdesh. Le Ekdesh renouvelable n'existe que si c'est le Makdish qui l'a racheté, alors ça redeviendra. Mais Pedaoum Acherim, non. Veisha ki Pedaoum Acherim Damia. Or, une femme, c'est comme Acherim. Je termine la lecture, je reviens à l'explication. Itmar Nami, il a ainsi été dit la même chose qu'on vient de citer au nom de Rabbi Yochanan. Qui a cité Rabbi Yochanan? C'est Rabbi Yirmiya. Eh bien, il y a un autre Talmid, Rabbi Ami, qui a dit la même chose au nom de Rabbi Yochanan. Itmar Nami Amar Rabbi Yochanan, Lo Shanu La Shibdan Hu, Aval Pdaoum Acherim En Chozot Vekdoshot. Le din de Pedaan, Kedoshot. Pedaan, Kedoshot, que Bar Peda, il lit dans la Mishnah. C'est uniquement si l'objet ne sort pas du Reshut ou Ekdesh ou propriétaire initial. Alors lui-même l'a dédié au Ekdesh, mais il en a repris possession par le Pidyon. Et après, tout de suite ça redevient Ekdesh, parce que quand tu as rendu Ekdesh, c'était un Ekdesh renouvelable. Tu as bien dit, je le veux Ekdesh durablement jusqu'à telle échéance, à Tchekat et tout, coûte que coûte. Alors ça redevient. Parce que c'est jamais sorti ou de chez toi ou du Ekdesh. Mais dès que ça fait le détour chez quelqu'un d'autre, suppose que c'est quelqu'un d'autre qui le rachète au Ekdesh. Alors, est-ce que l'objet va redevenir Ekdesh? Je l'ai pourtant désigné Ekdesh renouvelable. Mais t'as pas la force d'être Makdish qui n'est pas à toi. En Adam Makdish Davar Sheno Shelo. Il n'est pas Birshutra pour le rendre Ekdesh. Donc, il est entièrement soustrait et t'as plus d'emprise. Alors on a dit, même si quelqu'un qui l'a racheté te l'a offert, te l'a remis dans ton reshout, c'est fini, il y a une coupure, il est entièrement soustrait au Ekdesh. Le Ekdesh renouvelable ne peut plus continuer à rouler, il n'y a pas de renouvellement du Ekdesh. Si bien que dans Kiddushin, dit Rabbi Yirmiya, ben c'est un peu le même modèle, parce qu'il n'y a pas que l'homme dans la photo, il y a la femme. C'est elle qui doit accepter. C'est pas lui qui décide. Il veut donner les kiddushin, il faut qu'elle accepte. Et elle, elle reprend possession d'elle-même par le divorce. Elle retrouve sa liberté et sa liberté de décision. Est-ce qu'elle voudrait être mitkadesh à nouveau ou pas? Ce sera son choix personnel. Ce sera pas à l'homme de décider. Il pourra pas décider pour elle. Donc c'est comme quelque chose qui a une kiddusha qui est racheté par un tiers. La femme, c'est comme un tiers, elle a repris possession d'elle-même. Et donc, elle s'est soustrait au kiddushin du mari, par le girushin, et maintenant, elle est, elle, maître de la situation. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a kiddushin renouvellement, avec renouvellement automatique, puisqu'il s'agit d'une kedusha qui est libérée par le get, et que maintenant, elle est elle-même en sa propre légitimité, liberté, autonomie, celle qui dépend, qui décidera. Et donc, c'est pourquoi, s'il fallait comparer, il ne fallait pas comparer au cas de Pdaan, les Hatzmo. Mais alors, tu n'as qu'à comparer à Pdaan Acherim? Si, déjà. Puisque tu me dis qu'ici, c'est comme une tierce personne qui reprend possession d'elle-même. C'est comme une tierce personne. Encore une fois, reprenons. Hekdesh, il y a le enfin le patrimoine Ekdesh, et il y a moi. C'est deux Réchouyot. Réchou des Baalim, Réchou du Ekdesh. Et entre les deux, il y a un objet qui fait le va et vient. Je l'ai attribué au Ekdesh. Je l'ai racheté, donc je l'ai repris. Mais il repart tout de suite parce que quand je l'ai rendu Ekdesh la première fois, je le voulais. Ekdesh renouvelable. Comme ça qu'on l'a dit en deux mots. Kiddushin. Il y a le Réchou du mari. Quand elle est Mekoudeshet à lui. Et il y a le reshut Aïcha quand elle est connaît Atzma par le get. Elle retrouve son autonomie, elle n'est plus Echetish. Elle n'a plus la Kdusha d'Echetish. Il n'y a pas un objet qui fait va-et-vient. C'est son reshut à elle, c'est son autonomie, son indépendance, le fait d'être elle-même libre par rapport à son mari et du Kinyan et des Kiddushin et de sa décision. Elle est entièrement indépendante. Alors c'est ça qui s'appelle le Kinyan et les Kiddushin. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Par les Kiddushin, le mari a pris possession de la femme. Et par le Girushin, il la restitue elle-même. C'est pas un objet physique qui fait le l'aller et l'aller-retour. Maintenant, on voulait comparer et dire qu'il y aura aussi Kiddushin avec renouvellement automatique, si vous voulez, en donnant de Proutot, parce que ce serait comparable. Alors Rabbi Yirmiyahu a dit, mais non, c'est pas comparable. Parce que ici, c'est comme l'équivalent de Pdan Acherim, parce que la femme, c'est une personne qui a sa liberté de décision, c'est pas le mari qui décidera pour elle. Dès qu'elle est divorcée, c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui est maintenant maître de la situation, qui peut décider. Et donc, c'est comme l'objet qui est dans la main d'un tiers, ce qu'il aurait racheté. Ben, je ne peux pas le rendre Kiddush alors que ça dépend d'un tiers. Donc le renouvellement du Kiddush ne peut pas se faire. Ici aussi, le renouvellement des Kiddush ne peut pas se faire. Très bien. Demande le Ran. Bon, alors ça c'est les mots de l'Agmara. Le Ran demande une question. Pourquoi on ne dirait pas que vu du côté de la femme, ça ressemble à Pdaan Latzmo? Parce que la femme, elle émite Kadeshet à l'homme. Et quand il y a eu le guet, c'est comme si elle se rachète elle-même. Et alors, dit que ça ressemble à Pdaan Latzmo, la Kdusha revient, elle peut se renouveler. Pourquoi on ne dirait pas ça? Le Rani dit parce que on ne regarde pas le côté de la femme, parce que dans les Kiddushin, ce n'est pas elle qui est opérante, c'est l'homme qui est opérant. La Torah, elle a dit qu'Iyikar Ish Isha, quand un homme, il fait l'acquisition de la femme, ce n'est pas la femme qui s'acquiert à l'homme. La femme, simplement, elle consent à l'acquisition du mari. Mais le mari lui donne l'argent des Kiddushin et lui fait l'acquisition. Elle ne fait que consentir. Elle se rend comme Hefker à l'égard de cet homme. Hefker, ça veut dire qu'on peut prendre possession d'elle. Elle a donné sa permission, mais elle ne fait pas l'attribution et l'acquisition au mari, rien. Elle ne contribue pas, si ce n'est la décision d'accepter de recevoir Kiddushin de cet homme et de devenir son épouse par l'acquisition qu'il va faire lui. Et donc, elle n'y est pour rien. Donc on ne peut pas regarder ça comme quelqu'un qui est pour des tatsmo et qui de nouveau, il est makdish et tatsmo. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas elle qui agit. C'est pourquoi ça ne ressemble pas à Pdan Latzmo. Mais ça ne ressemble pas non plus à Pdan Acherim, dit Loran. Pourquoi du coup la Gemara n'a pas dit si ce n'est pas Pdan Latzmo? Donc c'est Pdan Acherim. Pdan Acherim, on connaît le din. Dans la Kherim, Rabbi Yochanan, il a dit clairement le din. Alors pourquoi on a un doute dans le cas de Rabbi Yochanan à propos des Kiddushin? Tu me dis que le cas de Kiddushin ne s'assimile pas à Abdan Atzmo, alors il s'assimile forcément à Abdan Kherim. Ben alors, refère-toi à Abdan Kherim. Là-bas, le din, il est établi. Abdan Kherim, Rabbi Yochanan, il a dit, il n'y a pas de renouvellement de la Kdusha. Alors ici aussi, il fallait retenir, il n'y a pas de renouvellement des Kiddushin. Dit Lorrain, non. Ça ne ressemble pas non plus pleinement Abdan Acherim. Parce que là, il y a quand même un peu la femme qui intervient un peu comment? Par son consentement au Kiddushin. Elle a une part, quelque part. Et donc, ce n'est pas littéralement comme Abdan Acherim. Alors, je ne peux pas dire que je regarde que le côté de l'homme et que vis-à-vis de l'homme, c'est l'équivalent d'Abdan Acherim puisque c'est la femme qui a repris possession. C'est lui, il n'est pas décideur par rapport à elle pour un deuxième Kiddushin. Je ne peux pas voir ça comme ça, formellement. C'est un peu entre les deux. C'est un peu comme Pdan Latzmo, c'est un peu comme Pdan Lachirim, d'où le doute de Rabbi Yochanan. Voilà comment le Ran explique. C'est pourquoi la question de Rabbi Yochanan reste une Sheila non tranchée, ici dans notre passage de la Gemara, malgré notre référence, justement, il n'y a pas de référence dans notre Sugya. Cependant, après, les Rishonim vont débattre, est-ce que, de par ailleurs, dans d'autres Sugyot, on peut trouver des indices pour trancher la Sheila? Certains diront que oui. Le Ran, il ramène le Rambam, le Rajba, et après, il est Cholek. Il y a, souvent dans les Gemarot, une question qui reste avec un point d'interrogation, mais les Rishonim nous disent, voilà, j'ai un indice d'une autre Sugya que la Gemara n'est pas restée avec un doute. Elle avait le dernier mot dans une autre Sugya indirectement. Alors là, c'est un débat dans les Rishonim. Ok.
Quand il donne les deux poutres, c'est une première fois, et la deuxième, qui dit... Quand je t'aurai divorcé.
Il les donne en même temps.
Voilà, en même temps.
Mais avant de les donner, il fixe l'intention.
Mais elle aussi, elle consent les deux fois. Donc, oui. D'une part, elle a déjà acquiescé le deuxième Kiddushin.
Oui. Mais il veut réaliser quelque chose. C'est vrai que maintenant, elle a déjà acquiescé.
Et le rabbi, mais... la première plus tard. Mais pas la deuxième.
Mais ça dépend de elle. Même qu'elle a déjà acquiescé, ça dépend de elle. C'est elle qui est maître de ça. Donc, ça s'appelle qu'elle a repris possession. Quand elle sera divorcée, ça s'appelle qu'elle a repris possession d'elle-même. D'accord? Après qu'elle ait déjà adjugé un accord de principe, c'est déjà vrai, mais c'est elle qui est maître d'elle-même. Donc c'est l'équivalent de Ptan l'Acherim.
On peut la rendre.
Anoder miyorde ayam mutar beyoshve ayabasha. Nouvelle Mishnah. Alors dans ces Mishnayot qu'on va passer en revue ici dans ce DAF, ce sont à chaque fois des expressions que le Tana entend définir. Quelle est l'intention de notre bonhomme? Quand il a dit ceci ou cela, qu'est-ce que ça inclut et qu'est-ce que ça exclut? Parce que dans les Nedarim, on va d'après le Lachon Bene Adam. Lachon d'Adam, c'est ce que les gens ils entendent quand ils parlent de cette manière, qu'est-ce qu'ils entendent dire? Et c'est ça qui est déterminant pour définir qu'est-ce que comprend le vœu et qu'est-ce que exclut le vœu. Alors, Anoder Meyor De Ayam. Et d'ailleurs, le Rambam nous dit que cette réflexion, à chaque fois, le Tana la tient en rapport avec le contexte de l'époque. C'est possible qu'on ne pourra pas comparer telle ou telle époque. Si à notre époque, on ne parle pas de la même manière qu'avant, eh ben, ce que le Tana dit, eh ben, ce ne sera pas vrai pour aujourd'hui. C'est selon le lieu et l'endroit et l'époque. Il y a une façon de parler spécifique à chaque endroit, à chaque époque. Et le Tana, à son époque et à son endroit, est là en train de définir qu'est-ce que chaque expression signifie. Alors, Anoder Miyor De Hayam. Celui qui a dit « Je suis Noder » de ne pas profiter des gens qui sont Yordé Hayam. Ceux qui vont à la mer. Moutar, Beyoshva Yabasha. Il peut profiter des gens qui vivent sur le territoire. Les marins, il ne pourra pas leur demander un service. Il ne pourra pas en profiter. Mais s'il a fait le neder inverse, il a dit « Je m'interdis de profiter des gens habitants de la terre ferme. » Eh bien, dans ce cas-là, il est assur même des Yordé Hayam. Pourquoi il est assur même des Yordé Hayam? « Je suis Yordé Hayam, Michal, je suis Yabasha. » Quoi, les marins ne sont pas habitants de la terre, ils passent toute leur vie en haute mer. Attends, des fois, bien sûr qu'ils vont revenir tôt ou tard, et quand il sera à la retraite, il reviendra. Il n'est que de manière accessoire en mer, même si c'est son activité, il est là-bas, marin, je ne sais quoi. Et donc, forcément, qu'il est encore assimilé à Yoshvé, à Yabasha, c'est pourquoi il est inclus dans le vœu. Petite remarque, mais au final, ça veut dire qu'il s'est interdit le profit de toute personne. Alors, est-ce que c'est possible de vivre sans profiter de personne? Et plus personne ne peut me faire le moindre service. Je ne peux plus manger la cuisine d'un autre. Je ne peux plus... Rien. Est-ce que c'est possible qu'un humain soit autonome, indépendant toute une vie? C'est a priori invraisemblable. Et dans ce cas-là, ça devrait être un neder shav. Un neder shav, ça devrait être nul, normalement. Avec des mefarshim qui disent non. Je crois que j'ai vu ça dans le Pirush Yachin, Tiferet Israël. C'est que le neder, il était limité dans le temps. Il a dit ça pour une durée d'un jour ou trois jours. Alors trois jours, il dit, il a de rapport avec personne. Ni va chez le coiffeur, ni va au restaurant, ni rien. Personne ne lui fait rien. D'accord. Donc trois jours, c'est possible. Donc c'est pas un vœu Nedershav si jamais il a limité dans le temps. Ça, c'est une petite précision qu'on pouvait deviner. Le Tana ne l'a pas précisé. Maintenant. Lo kailu sheolchin me'akol yafo ila bemi shedarko lefrosh. Pas comme ceux qui font une petite traversée. De Ako à Yafo, c'est un petit chemin dans la mer, sur la côte Eret Israël. C'est pas loin. Non, pas ceux-là. Mais ceux, plutôt ceux qui font, qui sont porchim, lefrosh, ça veut dire prendre le large. Comme si la Mishnah veut nous préciser la nature. En disant, c'est pas de cette nature, mais de cette nature. Sur quoi ça se rapporte, cette précision? Alors là, on ne sait pas encore. Tout de suite, la Gemara va se rapporter, va nous rattacher cette partie de la Mishnah, ou à la Recha, ou à la Sefa, deux avis qui arrivent tout de suite. Je rappelle la Recha, il a été Noder Miyorde Hayam. Ça ne concerne pas Yoshva Yabasha. Sefa, il a été Noder Miyoshva Yabasha, ça concerne aussi Yorde Hayam. La précision de la toute fin de la Mishnah, sur quoi se rapporte-t-elle? C'est ce qu'on développe tout de suite. Rav Papa Veravacha Bered Ravika, les deux intervenants ici présents, Chad Matne Arecha et Chad Matne Asefa. L'un, il ramène ça, cette précision de la Seifa, de la toute fin de la Mishnah, il la ramène à la Recha, et l'autre, il l'interprète sur la Seifa, le deuxième sujet. Mande Matne, Mande Tane Arecha, Matne Achi. Celui qui la rapporte à la Recha, voilà comment il interprète la Mishnah. Hanoder, donc du coup, si ça se rapporte à la Recha, il cite à nouveau la Recha. Hanoder, Meyordaya, Mutar, Beyoshvaya, Bacha. Très bien. Habe Yordé Hayam, Assur. Celui qui a fait un vœu de s'interdire de profiter des Yordé Hayam. Bon, alors il a le droit de profiter des Yoshvé Hayabasha, c'est ce que la Mishnah a dit. Habe Yordé Hayam. Voilà que clairement on entend que Yordé Hayam sont interdits. Tu ne peux pas profiter des Yordé Hayam, c'est ça l'objet du vœu. C'est au moins ça que tu interdis. Ça n'inclut pas Yoshvé Hayabasha, d'accord, mais néanmoins, les Yordé Hayam, forcément, c'est au moins ça le Neder. Et maintenant arrive la précision de la toute fin de notre Mishnah. Lo ka'elu ha'olchim me'akol e'yafo. Non pas comme ces Yordé Hayam qui font des petites traversées comme de Akko à Yafo. De alin Yoshvé Yabasha menou. Car ceux-ci sont considérés comme des Yoshvé Yabasha. Et là, mimi shedar kan nefaresh. Simplement, les Yordé Hayam de qui je me suis interdit sont ceux qui partent au large. Donc, un des deux Amoraïm précise que la dernière phrase de la Mishnah, c'est une précision dans le din de la Recha, que quand il s'interdit Yordé Hayam, alors à juger, Yordé Hayam ne s'interdit pas Yoshvé Yabasha. Mais qui s'appelle Yordé Hayam, je te précise. Non pas les gens qui font une petite traversée, mais ceux qui prennent le large. Seuls eux sont inclus dans le vœu. Que veut dire ? Ça veut dire que le Stam Dat Bnei Adam, quand il parle, quand les gens disent Yordé Hayam, ils font référence aux gens qui passent du temps en haute mer. Pas à celui qui fait une petite traversée juste pour... voilà. Donc Yordé Hayam, seuls sont interdits. Pas Yordé Yabasha. Et pas même ceux qui font des petites traversées qui, eux, sont assimilés à Yoshvé Yabasha. Ce n'est pas eux qu'on inclut dans Yordé Hayam, quand on parle Bistam de Yordé Hayam. Maintenant, deuxième intervenant, il a proposé une autre lecture. La fin de la Mishnah, Lo Kailu Sholchid Me'akol Yafo, ça se rapporte à la Seifa. Retenons que d'après cette première interprétation, il s'agit ici d'une Kula, de dire que non, ce que j'ai interdit Yordé Hayam dans le premier cas de la Mishnah, ça n'inclut pas ceux qui font une petite traversée. Cela, c'est permis. Donc, c'est une Kula. La précision de la fin de Mishnah, c'est une Kula. Selon cette première interprétation. Arrive maintenant la deuxième interprétation. Oumande matne asefa, celui qui rapporte, qui rattache la dernière phrase de la Mishnah à la Seifa, c'est-à-dire au deuxième sujet, quand il a fait un éder de ne pas profiter des Yoshvé Yabasha. Matne Achi, voilà comment il interprète la Mishnah. Alors il nous cite la Seifa, à laquelle se rattache ce complément. Hanoder mi Yoshvé Yabasha Asur, Beyordé Hayam. Celui qui a fait un vœu de Yoshvé Yabasha, ça comprend aussi Yordé Hayam. Velo Be'elu Aolchim Me'akol Yafo Bilvad. Lesquels Yordé Hayam j'ai inclus ? Pas uniquement ceux qui font des petites traversées et qu'à ce titre, je vais dire, ils sont assimilés à Yoshvé Yabasha, puisqu'ils ne passent pas tellement de temps en mer. C'est que des petites traversées comme ça qui se permettent. Ce n'est pas uniquement eux qui sont inclus dans mon vœu. Et là, Filou Bémichelar Kolefarech, mais même ceux qui partent au large, et pour longtemps, sont inclus. Pourquoi ? Ah, mais ils ne sont pas Yoshvé Yabasha ? Si Hoil Vesofol et Yabasha Salik, puisque finalement il reviendra sur la terre ferme, aucun marin ne passe sa vie en mer et il finit bien par revenir, etc. C'est pourquoi il est quand même inclus dans Yoshvé Yabasha Belashon Bnei Adam. Encore une fois, c'est toujours Lashon Bnei Adam qu'on cherche à définir pour définir qu'est-ce que le Neder comprend et qu'est-ce qu'il exclut. Donc, d'après le deuxième intervenant, la phrase finale de la Mishnah, c'est une Chumra qu'on vient rajouter à la Seifa. que de dire si Yoshva Yabasha s'inclut Yordé Ayam, ils sont également inclus et interdits. C'est lesquels Yordé Ayam inclus? Non pas ceux que tu aurais pu penser, oui, ceux qui partent pas tellement longtemps, qui sont à côté de la côte. À Koleyafo, c'est rien. Eux, ils sont comme Yoshva Yabasha. Eux sont inclus dans le vœu. Mais ceux qui prennent large, non. Eh bien, je te précise que si. C'est pas que eux. C'est ça, la Mishnah dit, l'okelu sholchin makoyafo, c'est-à-dire, c'est pas que eux que j'ai inclus. Et là, bemish et darko les farech, même ceux-là, je les ai inclus. Même eux sont inclus. Pourquoi? Parce qu'ils s'assimilent à Yoshua Yabasha dans le sens que tôt ou tard, ils reviennent. Ils restent pas toute leur vie. Voilà pour la deuxième lecture de la Mishnah. Ça donne une chumra. Parce que d'après cette explication, dans la Recha, on n'a pas à limiter. On n'a pas limité pour nous Yordé Ayam de la Recha. Ben, ça comprend tout. Si quelqu'un il a fait un odeur de Yordé Ayam, ça comprendra même ceux qui partent pour une petite traversée. Alors que d'après la première lecture, non. On excluait ceux qui partent pour une petite traversée. Eux ne sont pas inclus. Mais d'après la deuxième lecture, au contraire, dans la Recha, il n'y a pas de discernement. Yordé Ayam, c'est tous. Tous sont interdits. Et c'est dans la Sefa qu'on a rajouté cette précision pour dire que quand on inclut dans le Neder les Yordé Ayam avec les Yoshvé Yavasha, ça ne comprend pas que les petits Yordé Ayam, même les grands Yordé Ayam. Mishnah. Hanoder Miroé Achama. Celui qui fait un Neder de ne pas profiter des Roé Achama, Asuraf Besoumin. Il n'a pas le droit de profiter même des aveugles. Pourtant, l'aveugle ne voit pas le soleil. Parce que son intention n'était autre que celui que le soleil voit. Que dire le soleil voit le, quelqu'un qui est exposé au rayonnement du soleil, c'est ce qu'on a tendance à appeler Roer Hama. À l'époque, c'est comme ça qu'on parlait. Et le Tana nous fait part de quelle est la résonance de ce terme. Roer Hama ne prend pas ça au pied de la lettre. Celui qui regarde, qui peut voir le soleil. Même un aveugle, il s'appelle Roé Chama. Lui aussi, il est exposé au rayonnement du soleil. Ça s'appelle les Roé Chama. Les voyants du soleil veut dire ceux qui sont exposés au rayon du soleil. Qu'est-ce que ça va exclure? On va voir, ça va exclure des êtres qui ne sont pas exposés au rayonnement du soleil. Par exemple, des poissons, on va voir. Donc, comment?
Il s'inclut lui-même, du coup?
Je crois pas. Il va être au Seratzmo. Non. Je pense pas. D'abord, c'est pas possible s'il s'excuse. Je sais pas. En tout cas, j'ai déjà dit que. Non, certainement que non. Il est au seratzmo des autres, mais qui sont les autres? Il les définit par ce terme de Roé Chama. Je ne nous dis qu'est-ce que ça résonne, Roé Chama. Selon la Lachon Bnei Adam, ça comprend tout être exposé au rayonnement du soleil. Maintenant, j'ai précisé, il faudra certainement qu'il limite ce vœu dans le temps. Sinon, il y a un problème de Neder Shav, que ce n'est pas réalisable. C'est impossible d'être autonome, de profiter de personne sur Terre. Ok. Maïtam, quelle est la raison? Pourquoi tu ne prends pas ça à la lettre? Pourquoi tu ne dis pas que son intention sont ceux qui voient le soleil et non pas l'aveugle? Midelokamar minaroin. Parce qu'il n'a pas dit des voyants. Si tu veux dire les humains normaux sauf les voyants, fallait dire « Je suis Noder minaroin, des voyants ». Et donc, son intention, quand il a dit « Roé Chama », c'est pas ceux qui regardent et qui arrivent à voir le soleil. Non. Que ça change qui, qu'est-ce qu'il voit ou pas. Si tu voulais épargner les aveugles, tu aurais dit « Roïn », tout court. « Roé Chama », c'est pour dire ceux qui sont exposés au rayonnement du soleil. Alors, qui sont ceux qui ne le sont pas? « Les Afouké, Dagiv et Ubarim ». Ça exclut les poissons ou les enfants qui ne sont pas encore nés. C'est ça les houbards. Ceux-là ne sont pas inclus dans le vœu. Point. Nouvelle Mishnah, Noder Mishchore Arosh. Asur Bekarachin ou Baal Esevot. Celui qui a fait un vœu de s'interdire le profit de toute personne qu'on nommerait Shechore Arosh, les noirs de tête. Alors une fois de plus, j'ai déjà dit au nom du Rambam que ces Mishnayot nous définissent ce qu'on entendait à une époque donnée, à un endroit donné, dans le langage parlé. Et c'est selon ça qu'on détermine la portée du vœu. Et c'est ce que les Mishnayot ici cherchent à déterminer. Donc maintenant, en français, au XXIe siècle, on nous prend pour un fou si, pour désigner des humains, hommes, je dis « shoré à roche », les noirs de tête, ça ne veut rien dire. Ok, mais à l'époque, ça voulait dire. Pourquoi c'était comme ça qu'on parlait? On va le comprendre. Alors commençons un sujet. « Anoner mishoré à roche », la Mishnah établit, il n'a pas le droit de profiter de tous les hommes, y compris ceux qui ne sont pas noirs, ils n'ont pas les cheveux, mais ils sont kéréar, ils sont chauves. Ou bien, bah, les sévotes, les gens qui sont très âgés. Plus que Zaken, c'est Seva. Et donc, ça veut dire très âgés, et que leurs cheveux ne sont pas noirs, sont certainement blancs. Eh bien, quand même, ils sont inclus dans le Neder. Parce que le langage parlé à cette époque, tu parles de Shroré à Roche, ça comprend tous les hommes. Mais ça épargne les femmes et les Ktanim. Moutar ben Hashim ou Biktanim. Shen Nikrain, Shroré à Roche et la Hashim. Parce que ne s'appelle Shroré à Roche que des hommes. Pourquoi? On va voir. Alors, moi, demande Maïtama. Pourquoi tu prends pas ça à la lettre? Que ce soit les gens qui ont des cheveux. Et c'est quoi Shroré à Roche? Qu'est-ce qui rend la tête noire? C'est le fait que on est chargé de cheveux. Alors, si quelqu'un, il est kereyar, il n'a pas de cheveux, pourquoi il serait inclus dans ce vœu? Réponse, parce qu'il n'a pas dit « mi bal esear ». Si j'entendais dire « ceux qui ont des cheveux » littéralement, j'aurais dit « bal esear ». Et comme je n'ai pas dit « bal esear », « shroré à roche », c'est plus large. Ça comprend tous les hommes. Mais ça exclut femmes et enfants. « Moutar ben hachim ou biktanim, shen ikrain shroré à roche la hachim, aitam ». Pourquoi ça s'entend uniquement les hommes et pas les femmes et enfants? Alors, parce que Anashim zimnin de mirsu rechayu ve zimnin de migilu rechayu. Les hommes ont des fois la tête couverte et des fois la tête découverte. À l'époque, on n'avait pas une obligation. Alors peut-être ça veut dire la kippa. Il y a la kippa. Et qui ne masque pas toute la tête. Même quand on parle de la tête découverte, ça veut dire avec une kippa. Mais on n'a pas besoin de dire ça. Peut-être qu'à l'époque, comme c'est écrit dans les poskim, c'était pas une halakha formelle de couvrir la tête. C'est ressenti dans les gemarot que les gens très pieux ou les grands couvraient la tête systématiquement. Mais autrement, on pouvait avoir la tête découverte. De nos jours, c'est interdit, c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, les hommes avaient tantôt la tête couverte, tantôt découverte. Et donc, on voit la chevelure. Et donc, on appelle un homme par rapport à cet aspect, comment on le voit, chevelu. Maintenant, il y a, c'est vrai, un homme qui a les cheveux qui ont viré au blanc, il y a un homme qui a perdu les cheveux, c'est vrai. Mais ça veut dire toute personne qui est sujet à ça, qui a ce phénomène, qui a un humain normal, il a les cheveux. C'est comme ça qu'on parle. On désigne comme ça les hommes. La communauté masculine s'appelle Shroré à Roche. C'était comme ça à l'époque. Aval Nashim, c'est pas comme ça qu'on la désigne. Nashim, l'Olam Mirsu, elles ont toujours la tête couverte. Et la tête couverte, ça n'a rien avec le noir. De Rashi, je comprends, ça peut être du blanc, ça peut être n'importe quoi, un fichu d'une couleur ou d'une autre. Elles ont toujours la tête couverte avec, donc, il n'y a pas Shroré à Roche. C'est pas forcément noir. Oublie. Donc la femme, on l'appellera pas Shroré à Roche. Et les Ktanim non plus, parce que l'Olam Miglou, ils ont toujours la tête découverte. À l'époque où il n'y avait pas l'obligation d'avoir un couvre-chef, ils ont toujours la tête découverte. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas tendance à nommer une femme ou un enfant Shroré à Roche. Même si en dessous du couvre du fichu, il y a des cheveux noirs, c'est vrai. Mais ce n'est pas comme ça. Ça n'apparaît pas comme ça. Elle ne se présente pas comme ça. On n'a pas l'habitude de la désigner ainsi. C'est les hommes qu'on désigne comme ça. Mais les hommes au sens large, sans entrer dans la nuance, est-ce qu'il a encore ses cheveux ou il les a plus? Est-ce qu'ils sont déjà blancs ou ils sont encore noirs? Peu importe. La Shon venait à Adam. Shroré à Roche désigne les hommes. De nos jours, certainement que les gens ne parlent plus comme ça. Mais à l'époque, c'était comme ça, et c'est ce que le Tana détermine, que le vœu inclut les hommes et exclut femmes et enfants. Anodam na Yilodim. Alors c'est où Yilodim? Ou Yilodim, je ne sais pas exactement, je crois qu'il y a une subtilité dans les Mefarshim, il faut savoir. Mais en tout cas, Anodam na Yilodim, Mutar banoladim. Et mina noladim, asur, mina yeloudim. Alors on va se mettre d'accord que yeloud veut dire celui qui est déjà né. Et nolad veut dire celui qui est amené à naître. Est-ce que c'est exclusivement comme ça et grammaticalement? On va voir après. Pour l'instant, C'est ce qu'on pose. Donc Tanakama, il me dit, si quelqu'un il a fait un éder de ne pas profiter des Yilodim, des humains, des janés, alors ceux qui sont amenés à naître, il ne les a pas inclus. Toute personne qui va naître après ce moment, moutard, il aura un moutard banoladine, il pourra en profiter. Mais s'il a fait un veminanoladine de ceux qui sont amenés à naître, alors il est assourd. Minayaloudine. Si c'est interdit ceux qui vont naître, il s'est interdit tous, même les Yeloudine. Pourquoi? Parce que Noladine, c'est ceux qui sont amenés à naître, mais ça n'exclut pas ceux qui sont déjà nés. Tous sont inclus dans Noladine. Voilà pour Tanakama. Rabbi Meir, Matir, Af, Bayeloudine. Rabbi Meir dit même, Shumatir Yeloudine. De quoi il parle? Est-ce qu'il veut dire que dans ce cas-là, dans un certain cas, on est Matir tout? Et Noladim et Yeloudim, c'est invraisemblable. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est interdit? Et sur quel cas il parle? Sur le 1 ou le 2? Tout ça va être clarifié dans la Gemara, ça arrive tout de suite. Chachamim omrim, et les Chachamim disent, l'onit kavenze la bemiche d'arkol et valed. Son intention n'était autre que les humains, pas les humains, tous ceux qui sont sujets à naissance. C'est ça que j'entends quand je dis Noladim. Là, Chachamim, est-ce que c'est une troisième chita? Non. Chachamim, c'est un Nakama qui se reprend pour contrer l'approche de Rabbi Meir, pour se justifier face à Rabbi Meir. En fait, il y a ici une incertitude sur quoi il se rapporte Rabbi Meir, et donc on n'arrive pas à comprendre ni l'intention de Rabbi Meir, ni ce que Chachamim disent après. Mais tout ça est clarifié, ça arrive tout de suite. La Gemara demande, les Rabbi Meir, « Velomi baya noladim » Si Rabbi Meir dit même les Yeloudim, je permets, donc forcément les Noladim sont permis. Je peux profiter des Noladim et des Yeloudim. Alors il a mis Manassar, de qui je me suis privé? Qu'est-ce que j'ai fait comme Néder? J'ai pourtant dit un Néder, que ce soit la Récha, la Sefa, j'ai pourtant dit un Néder. Et au final, tout est permis. Alors mon Néder, quoi, il part dans l'espace? C'est pas possible. On n'a pas compris Rabbi Meir. Répond la Gemara, Chissour et Mirsera Verchi Katani. Il manque un élément de transition dans la Mishnah. Voilà comment il faut relire la Mishnah. On reprend le Tanakama. Celui qui a dit, j'inclus dans mon Eder les Yeloudim, ça n'inclut pas les Noladim. Ça renvoie à ceux qui sont déjà nés et pas ceux qui sont amenés à naître. Mais si j'ai fait le Neder Mina Noladim, il est assourd aussi by Yeloudim. Il est assourd de ceux qui sont amenés à naître, mais même de ceux qui sont déjà nés. Ça, c'est Tanakama. Ça veut dire que Belashon Bene Adam Noladim, c'est large. Ça comprend soit les uns, soit les autres. Tanakama. Rabbi Meir vient et dit non. Afanoder Mina Noladim, même dans ce deuxième cas, Mutar Ba Yeloudim. De même que dans le Neder de Yeloudim, tu autorises les Noladim, le Neder de Noladim exclut les Yeloudim. Donc Noladim est spécifique à ceux qui vont naître. Mais ceux qui sont déjà nés ne sont pas inclus, sont permis. Kéré de Noder Minayeloudim, Moutar Banoladim. De même que dans la Recha, Minayeloudim, ça n'inclut pas Noladim. Eh bien, dans la Sefa, Noladim n'inclut pas Yeloudim. Donc, le mot Af ba Yeloudim, ce n'est pas pour dire que dans un même cas, je suis m'attire tout. Ni Yeloudim en plus de Noladim. C'est faux, c'est un non-sens. L'intention de Rabbi Meir Af ba Yeloudim, ça veut dire même les Yeloudim, je les exclus de Noladim. Comme tu as exclu Noladim de Yeloudim. Et donc, il est dans, pour lui, Recha et Sefa, c'est exclusif. C'est où Yeloudim qui exclut Noladim? C'est où Noladim qui exclut Yeloudim? En d'autres termes, ça signifie que les Rabbi Meir, dans le langage d'Ebné Adam, Noladim, c'est spécifique à ceux qui vont naître. Et ça ne s'entend pas à ceux qui sont déjà nés. Mais allez, Rav Papa, les Abayé. Rav Papa, il fait la remarque à Abayé. Les mimras, cela voudrait dire des noladim, des mityaldan, machma, que le mot noladim, cette forme-là, elle a quoi comme résonance? Ceux des mityaldan, ceux qui sont amenés à naître. C'est comme ça que ces machma, ça résonne. Et la meata, alors j'aurais un problème avec un pasouk de la Torah. Yaakov a venu, il a dit à Yosef, Shnei banecha noladim lecha beret mitzraim, tes deux enfants qui vont naître ou qui te sont nés en Égypte. Achinami des mityaldanu, est-ce qu'effectivement ça signifie qu'ils vont naître? faut dire des mityaldan. Mityaldan en araméen, c'est noladim en hébreu, qui sont amenés à naître. C'est pas vrai. Ils étaient déjà nés, Ephraïm et Ménaché, à ce stade, quand Yaakov il parle à Yosef. Donc ça veut dire que Lama a aidé. Ityaldou mashma. J'ai dit Ityaldou qui est corrigé dans la marge. Ityaldou, ça veut dire, le Yavet, il dit qu'il faut dire Ityaldou. Ça veut dire qu'ils sont déjà nés. Tu vois que le mot noladim dans nos sources, dans la Torah, désigne des personnes déjà nées. Alors comment Rabbi Meir, il va dire que noladim, c'est exclusivement ceux qui sont amenés à naître? Mais non! Dans la Torah, ce terme désigne des fois des gens qui sont déjà nés. Question de Rav Papa à Abaye. Alors il réagit, et la Meata, alors d'après ça, à partir de, d'après ce que tu viens de me dire, c'est exclusivement, ça désigne, pardon, ceux qui sont déjà nés. Et mais pour moi, je connais un passouk qui résonne différemment. Et la Meata d'Irtiv, Ine ben nolad lebet David, Yoshaya ushemo. Le Navi annonce, voici un fils qui va naître pour, dans la lignée des Malchut Bet David, son nom sera Yoshiaou. Achinami dehava, est-ce que c'est vrai qu'il était déjà là, il était déjà né? Ve'adain Menaché loba, mais même Menaché qui est ancêtre de Yoshiaou n'était pas encore là quand on adresse ce message à David. Donc, on parle ici avec le terme de nolad au sens de qui va naître. Donc le pasouk, il est dans la Torah, ce terme, il est ouvert. C'est tantôt ça, c'est pas figé. Pourquoi alors Rabbi Meir dit que si c'est figé, c'est forcément ceux qui vont en naître. Et les Yéloudim ne sont pas inclus. Il dit même, moi pour moi, les Yéloudim sont permis dans ce cas-là. C'est pas vrai. C'est ouvert. Alors Rabbanan, c'est très bien. Mais Rabbi Meir, je ne comprends pas. Rabbanan, c'est très bien parce que si dans la Torah, c'est ouvert, c'est pourquoi le langage d'un tel vœu, ça comprend l'un et ça comprend l'autre. Il n'y a pas de problème. Mais pour Rabbi Meir, pourquoi ce serait exclusif? C'est que ceux qui sont amenés à naître. Pas dans la Torah. Si la Torah, elle l'emploie comme ci ou comme ça, c'est que grammaticalement, ça correspond pour dire ceci ou pour dire cela. Donc ça devrait être ouvert et ça devrait inclure tout. Tu as raison. Dans nos textes et dans nos sources, ça s'entend comme ceci, ça s'entend comme cela, c'est ouvert. Grammaticalement, ça a les deux résonances. Néanmoins, en matière de Nedarim, on se réfère au langage parlé. Qu'est-ce que les gens entendent dans leur langage parlé? Pour Rabbi Meir, quand quelqu'un dit Noladim, il entend ceux qui sont amenés à naître. Uniquement. Quoi, et Chachamim ne sont pas d'accord avec ce principe que dans Nedarim, on va d'après la Shon Bnei Adam. Chacham dit, je regarde dans la Torah, et dans la Torah, ce terme, il est ouvert, et il inclut les deux. Alors, c'est pourquoi je dis que le Neder inclut les deux? Non, c'est pas ce qu'il faut entendre. Dit le Ran, bien sûr que Chachamim sont d'accord avec le principe de base, que dans Nedarim, on suit le langage de Bnei Adam. Mais, eux pensent que Noladim, dans le langage d'Ibn Adam, c'est comme dans la Torah. C'est ouvert, ça inclut les deux. Peut-être qu'il y avait une sorte de situation un peu comme intermédiaire. S'il y a matière à discuter, c'est que ce n'était pas très clairement défini. Imaginons qu'on est dans un pays où on ne parle que comme Rabbi Meir nous précise. Noladim, dans le dictionnaire et dans le langage d'Ibn Adam, ça ne veut dire que ceux qui vont naître. Pourquoi Rabbanan ne serait pas d'accord? Comment ils vont dire que la chaîne d'Ibn Adam, il est différent? Non, la métite, elle est comme Rabbi Meir décrit. Ou si on est dans un pays où la métite, elle est comme Rabbanan nous décrive, pourquoi Rabbi Meir ne serait pas d'accord? Où il peut y avoir place à une marque loquette? C'est ça qui me dérange, c'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'à l'époque des Tanaïm, en Eretz Israël, ou bien qu'il y avait des endroits comme ceci et comme cela, et chacun il a dit selon son endroit, ou bien il y avait une situation un peu intermédiaire. C'était une tendance plutôt comme Rabbi Meir, mais un petit peu, il y avait quand même des gens qui en disant « Noladim, entendez, Yaludim ». C'est pourquoi Rabbanan, il dit « ça reste ouvert ». Et on fera la choumra de dire que son éder inclut même les Yaludim. C'est ça la marloquette. Maintenant, la Gemara termine avec la troisième intervention dans la Mishnah, c'est Chachamim Omrim. Chachamim Omrim lo nitkavenze ela bemish ela mimish darko leivaled. Il n'a eu l'intention que d'inclure ceux qui sont sujets à naissance. Quand il a dit Anoladim, Leafouke Maï, qu'est-ce que ça exclut? Leafouke Dagim Veofot. Ça exclut ceux qui ne sont pas sujets à naissance. Les poissons ne naissent pas et les volailles ne naissent pas. Ils pondent des œufs. Il y a les œufs de poissons, il y a les œufs des volailles. Et donc, ça, c'est pas, ça ne s'appelle pas une naissance. Et donc, quand il a dit « Je m'interdis de profiter de tous les noladim », c'est pas pour dire ceux qui sont amenés à naître par exclusion de ceux qui sont déjà nés. Non. Sur ce plan, je reste large. Je l'entends large, comme dans la Torah, c'est comme ci, comme ça. Dans le langage des Bnei Adam aussi, des fois, ça veut dire l'un ou l'autre. Alors, pourquoi j'ai dit « nolad » pour exclure quoi? Si c'est pas pour exclure les yeludim, c'est pour exclure ceux qui sont pas sujets à naissance du tout, qu'ils ne naissent pas déjà comme un individu. C'est un œuf qui est pondu, comme les volailles ou les poissons. Et donc, ça, c'est l'intention de Chachamim dans la Mishnah, et le Ran précise que Chachamim, comme Rashi, que Chachamim, c'est pas une troisième Shita, c'est le Tanakama qui se reprend. Maintenant que Rabbi Meir a dit son point de vue, que d'après lui, Noladim, c'est exclusif, c'est spécifique à ceux qui vont naître, et pas ceux qui sont Yeludim. Pourquoi moi, Tanakama, j'ai dit différemment? Je me reprends, c'est ça, Vachachem et Omrim, je me reprends et je précise que j'ai dit Nolad que par opposition à ceux qui ne sont pas sujets à naissance. Mais tous ceux qui sont sujets à naissance sont inclus. C'est ça la résonance de Nolad. Et donc, à ce titre, ça comprend même ceux qui sont déjà nés. C'est pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Voilà pour la sugya du jour. Hazak Baruch.
Je suis sûr que ce point de la fin de cette dernière.